Guillaume Farel, le baroudeur de Dieu. C'est le titre de la conférence qu'a prononcée Pierre-Olivier Leschaud à l'issue de l'Assemblée annuelle des Amis du Musée international de la Réforme le 6 mars 2013. Après des études de philosophie, d'histoire et de théologie aux universités de Neuchâtel, de Berne et de Tübingen, Pierre-Olivier Leschaud est venu à Genève où il a rédigé sa thèse de doctorat à l'Institut d'histoire de la Réformation. Il est aujourd'hui maître de conférences en histoire moderne à la faculté de théologie protestante de Paris, où il mène des recherches sur l'histoire du protestantisme au XVIIe et XVIIIe siècle, et notamment une étude consacrée au théologien neuchâtelois Jean-Frédéric Osterwald. Mais c'est maintenant d'un autre théologien célèbre à Neuchâtel qu'il va vous parler, un personnage auquel la réforme genevoise doit également beaucoup, le remuant Guillaume Farel.
J'aimerais commencer par vous remercier très sincèrement pour cette invitation qui me fait honneur, mais me réjouit aussi à un double titre. D'abord parce que j'apprécie énormément ce musée. J'ai eu la chance en 2005 de faire partie des invités au moment de l'inauguration, et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi jusqu'à présent l'évolution de ce musée, et j'espère avoir la chance, dans un avenir assez proche, de pouvoir le faire visiter à mes étudiants parisiens lors d'un voyage éventuel à Genève sur les traces de Calvin. Peut-être pas l'année prochaine, parce que 2014, ce sera l'année de la Première Guerre, et nous irons donc à Berlin. Mais pourquoi pas en 2015 pour justement l'anniversaire de Guillaume Farel, puisqu'on fêtera à ce moment-là les 450 ans de son décès. Mais ce qui me réjouit aussi beaucoup dans cette invitation, c'est qu'on m'a invité à parler de Farel, qui est pour moi au fond un amour de jeunesse. Il y a une dizaine d'années de ça, et même un peu plus, alors que je travaillais déjà à une thèse de doctorat, j'avais envisagé de travailler sur Farel pour cette thèse de doctorat, et puis la vie a fait que je me suis dirigé plutôt vers le 17e et que maintenant je travaille même sur le 18e. Donc au fond, je suis ce soir assez loin de mes terres, et il y a des gens dans la salle qui assurément parleraient beaucoup mieux que moi de Farel, mais j'ai accepté l'exercice parce que le dépaysement est souvent heureux, et je dois dire que ça a été avec plaisir que j'ai préparé cette conférence pour vous. Farel, donc, bien sûr, vous le connaissez, plus ou moins. Il est en notre compagnie ce soir, puisque vous l'avez sur le mur qui se trouve à ma gauche, en haut à droite, encore que, d'après les lectures que j'ai pu faire en préparant cette conférence, il semblerait, je dis bien, il semblerait que ce ne soit pas réellement Farel, mais un viret âgé, donc vous auriez au fond deux virets, avant et après, qu'on l'ait attribué ensuite, enfin qu'on ait reconnu ensuite Farel, mais je laisse aux historiens de l'art, ce que je ne suis absolument pas, le soin de confirmer ou d'infirmer ma thèse. Mais enfin, il est d'une certaine façon en notre compagnie. Alors le titre de cette conférence, on l'a choisi de concert avec M. Payot, c'est une référence au grand historien français qu'a été Lucien Febvre, qui, dans un de ses écrits, Crayon de Jean Calvin, décrit justement à un moment donné Farel et le décrit comme un baroudeur, c'est-à-dire un aventurier qui a traversé un certain nombre d'épreuves. Et on pourrait comme ça multiplier les qualificatifs à propos de Farel. Mon maître neuchâtelois, Gottfried Amann, disait toujours que c'était le Lucky Luke des réformateurs. Lucien Febvre, à un autre moment, dans un autre texte, écrivait qu'il on pouvait le qualifier de chasseur alpin de la réforme. C'était pour souligner le caractère extrêmement actif du personnage, son rôle très fort, parfois même violent, dans l'instauration de la réforme en Suisse romande. Et c'est vrai que c'est l'image que l'on garde principalement de lui encore aujourd'hui. Il vous suffira, lorsque vous serez à Neuchâtel, de regarder la statue de Farel qui se trouve sur l'esplanade de la collégiale et de regarder ce qu'il a sous son talon gauche. C'est une tête de Saint-Pierre, enfin en tout cas une tête de pape qu'il aurait bien sûr renversée. Donc vous voyez qu'il y a là toute une imagerie qui s'est construite autour de lui au fil du temps. Je reviendrai sur l'origine de cette image, selon moi, mais avant, j'aimerais vous présenter en quelques mots la biographie du personnage, vous parler dans un deuxième temps de son action comme prédicateur, et dans un troisième temps, vous présenter un Farrell qui m'a toujours beaucoup frappé, dont on parle moins, c'est le Farrell spirituel, parce qu'il y a véritablement une spiritualité farrellienne, si je puis dire, et elle mérite à mon sens que l'on s'y arrête un bref instant. Alors, commençons donc par cette biographie de Guillaume Farrell. Guillaume Farrell est né, selon toute vraisemblance, en 1489, au hameau des Pharaux, d'où il tirerait son nom, près de Gap. C'est un homme du Sud, qui vient d'une famille relativement aisée. Certains ont prétendu qu'il était d'origine noble, mais rien ne confirme cette hypothèse. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui fournit un certain nombre de notaires et de personnalités importantes au niveau régional. Mais surtout, il vient d'une famille très pieuse, avec une mère qui est une dévote véritable et qui est un peu, si vous voulez, une coureuse de pèlerinage et de dévotion mariale en particulier. Et il reviendra d'ailleurs à la fin de sa vie dans son traité du vrai usage de la croix de Jésus-Christ sur cette figure maternelle qui l'a beaucoup marqué. Et vous verrez que cette référence à la piété mariale de sa mère joue un rôle dans une certaine mesure dans sa propre piété. À l'âge de 20 ans environ, Farrell se rend à Paris où il devient maître S.A.R., donc il acquiert une formation universitaire et il va rapidement s'inscrire dans l'orbite d'une personnalité qui est extrêmement importante à cette époque-là, qui est l'humaniste Lefebvre d'Étaples, hein, Faber Stapulensis, qui est, si vous voulez, mutatis mutandis, l'Érasme français qui à cette époque-là effectue tout un travail de redécouverte et de commentaire de la Bible qui va marquer toute une génération d'humanistes français. Et dans la foulée, si vous voulez, de Lefebvre, Farrell se rend à Meaux, où se situe à ce moment-là un noyau réformiste, non pas réformateur, mais bien réformiste, d'hommes d'église réunis autour de l'évêque Guillaume Brissonnet, qui tente au fond une réforme de l'intérieur de l'église catholique, qui est sensible à ce que l'humanisme a apporté, et apporte encore, à cette philosophie du Christ, si vous voulez, que prêche alors Érasme, et qui tente de l'appliquer dans un diocèse, un petit peu comme dans un laboratoire. Mais très vite, semble-t-il, Farrell trouve que ça ne va pas assez loin. Et très vite aussi, Farrell est sensibilisé aux écrits de Luther, qu'il lit non pas en allemand parce qu'il n'a jamais lu l'allemand, mais dans des traductions latines qui existent de ces textes allemands, voire dans le latin original de Luther. On assiste aussi, en 1523, à un serrage de vis, si vous me passez l'expression, de la part des autorités françaises, qui fait que le groupe de Meaux va se disperser. Et Farrell entame à ce moment-là un périple à travers l'Europe réformatrice, c'est-à-dire qu'il passe définitivement du côté de la réforme. Il va se rendre à Strasbourg, à Bâle, où il a une altercation avec Érasme qui est plutôt forte, à tel point que certains ont émis l'hypothèse que c'est suite à cette altercation qu'Érasme s'est décidé à s'en prendre à Luther. En tout cas, chronologiquement, ça pourrait marcher. Et il se rend aussi à Zurich, où il rencontre Zwingli. Et très vite, dans ce parcours, eh bien, il devient le chantre du mouvement réformateur en terre francophone, et on est, je vous le rappelle, 10 ans avant l'apparition de Calvin sur la scène de la réforme. Donc c'est véritablement, il devient véritablement à ce moment-là le pionnier des idées réformatrices, et il s'entoure aussi très rapidement d'une équipe, si je puis dire, de jeunes loups, qui seront par la suite des réformateurs disons, patentée. C'est le cas d'Antoine Froment, que vous connaissez peut-être, qui jouera un rôle important à Genève. C'est le cas aussi de Pierre Viret. Et ces gens-là, qui entrent progressivement dans l'orbite de Farrell, ben, c'est des gens qui ont 18 ans, 20 ans. Donc c'est des gens très jeunes qui adhèrent de manière très forte à ce que prêche Farrell, c'est-à-dire au fond, d'abord, le message de Luther, avec quelques révisions zwingliennes sur, en particulier, la question de la scène, et très vite, Farrell gagne, si je puis dire, en galant, puisqu'il est chargé, à partir des années 1528-1529, par les Bernois, de répandre progressivement la réforme en territoire roman. Et c'est ainsi qu'il est le principal instigateur, en 1530, de la réforme de Neuchâtel, où vous vous rendrez donc. Et c'est véritablement la première ville d'importance de langue française qui, à ce moment-là, passe à la réforme, en partie grâce à l'action de Guillaume Farrell. Et c'est vrai que dès cette époque-là, commence à circuler une légende qui est à la fois une légende et à la fois un reflet de la réalité autour du personnage. Parce que bien évidemment, cette prédication réformatrice va entraîner toute une série de réactions négatives, des réactions parfois même violentes. Alors on m'a dit que vous iriez à Valangin. Alors je vous raconte cette anecdote que certains biographes très anciens, dont Froment, qui l'accompagnait, raconte à propos de Farrell. On dit qu'à l'été 1530, Farrell, allant prêcher à Angolon, là où vous allez, je crois, également, s'en retournait à Neuchâtel et a été interpellé au fond du haut de sa fenêtre par la comtesse de Valangin, Guillemette de Vergy, qui lui reproche de prêcher cette nouvelle doctrine sur ses terres. Suite à quoi Farrell lui répond, il faut l'imaginer parlant avec l'accent du Sud, hein, c'est un méridional, donc c'est quelqu'un qui a aussi effectivement un caractère relativement emporté, et à la suite de cette altercation, les soldats de la garde de la comtesse de Valangin se seraient saisis de Farrell et, raconte-t-on, l'un d'entre eux lui aurait cassé quelques dents sur une statue de la Vierge à qui on lui demandait de rendre merci, c'est-à-dire de lui demander pardon. Et on raconte aussi que plusieurs dizaines d'années après, on voyait encore des traces du sang de Farrell sur cette statue. Alors, il y a certainement une part de vérité, il y a certainement aussi une part d'exagération très vite autour de ces épisodes-là. Il n'empêche que c'est cet épisode qui va entraîner la réforme de Neuchâtel. Par la suite, eh bien, on retrouve Farrell à tous les grands moments de la réforme de langue française, puisqu'il agit à Genève avant même l'arrivée de Calvin. C'est véritablement lui, avec son équipe de jeunes loups, hein, qui est à l'origine de la conversion, entre guillemets, de la ville en 1535-1536. C'est lui qui, en 1536, retient Jean Calvin à Genève et l'admoneste en lui disant « si tu ne restes pas, eh bien, tu devras te soumettre au jugement de Dieu ». Donc il a véritablement assumé un rôle de prophète, si vous voulez, et c'est lui encore qui sera présent à la dispute de Lausanne en 1536, au moment où l'actuel canton de Vaud bascule. Et ce n'est pas encore Calvin qui est l'homme principal, si vous voulez, de cette dispute, c'est bel et bien Farrell, qui prononce la prédication d'ouverture et qui est en charge de défendre la doctrine de la justification par la foi face aux contradicteurs catholiques. Par la suite, pourtant, Farrell va progressivement s'effacer devant Calvin parce qu'il le considère comme plus doué que lui, tant du point de vue linguistique que du point de vue théologique. Et il va même, sur certains points, se ranger théologiquement au point de vue de Calvin, en particulier sur la question de la scène, puisqu'il va, de Zwinglien qu'il était, devenir calvinien. Et il va, au début, suivre son ami, puisqu'il est pasteur à Genève de 1536 à 1538, jusqu'à ce qu'on exile les deux réformateurs de la ville. Farrell se rend à Neuchâtel et Calvin, comme vous le savez, à Strasbourg. Et Farrell, à la différence de Calvin, ne reviendra jamais à Genève et va se consacrer totalement de 1538 à sa mort, en 1565, à son église de Neuchâtel. Ça ne va pas l'empêcher de se rendre à plusieurs reprises en France, à Metz en particulier, en 1542, ou à Lyon au début des années 60, et une nouvelle fois à Metz, peu de temps avant sa mort, à l'été 1565. Et on dit d'ailleurs que c'est épuisé par le voyage de Metz. Il a quand même à ce moment-là 76 ans, ce qui pour un homme du XVIe siècle est extrêmement âgé. C'est donc ce voyage et les tribulations, disons, de ce voyage qui auraient engendré son décès. Mais le bonhomme, si vous me permettez l'expression, n'avait pas manqué une dernière fois avant sa mort de défrayer la chronique, puisque Farel était célibataire et qu'il l'était resté, mais qu'en 1558, eh bien, il lui a pris de se marier. Et il n'est pas allé chercher une dame de son âge, mais plutôt la fille d'un réfugié français, Marie Thorel, qui aurait eu entre 16 et 18 ans au moment de leur mariage. Certains ont tendance à réduire l'âge de la mariée, en particulier les controversistes catholiques, mais je crois que malgré tous les efforts qu'on peut faire, on ne pourra pas lui donner plus de 20 ans au moment de ce mariage. Et ça va, bien sûr, défrayer la chronique, naturellement, et il va inviter Calvin à son mariage, et Calvin, qui est déjà à ce moment-là très soucieux de l'image du mouvement réformateur, soucieux de préserver l'image de Genève et du protestantisme face à ses adversaires, eh bien, refusera de venir à ce mariage et demandera à Farel de s'exiler quelque temps pour cacher, si vous voulez, cet événement. Et les deux hommes vont, ne se réconcilieront véritablement que sur le lit de mort de Calvin. Et on a une scène extrêmement touchante, puisque Farel, qui a 75 ans à ce moment-là, fait le voyage de Genève depuis Neuchâtel pour être auprès de son ami au moment où celui-ci rend son âme à Dieu. Et c'est un signe très intéressant et significatif que de voir que l'année suivante, l'année même où il meurt, eh bien, Farel a un fils de sa femme et qu'il le prénommera Jean. Un fils qui d'ailleurs ne vivra malheureusement pas longtemps puisqu'il décédera peu de temps après son père. Voilà donc pour cette biographie resserrée, on aurait pu dire bien des choses bien sûr, mais l'exercice veut que je sois court sur le plan de sa biographie. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est que loin d'être un impulsif, un prédicateur qui improvisait, Farel avait dans son souci de propagation de la réforme un certain nombre d'options pratiques, si vous voulez, qui montrent qu'il réfléchissait quand même passablement à ses méthodes. Et un élément qui m'a toujours frappé, c'est qu'en 1525, soit 5 ans avant la conversion de Neuchâtel, eh bien, il écrit dans une lettre à Zwingli qu'il faudrait envoyer quelqu'un prêcher l'évangile à Neuchâtel, parce que Neuchâtel, dit Farel, c'est la via miserere Galliae. C'est la voix de cette misérable Gaule qui souffre sous le joug de l'Antéchrist. Et si l'on veut convertir la France, eh bien, il faut convertir d'abord Neuchâtel. Et ça va être, à partir de 1525, non pas une obsession, mais un objectif que Farel va garder en tête. Et en 1529, il se rend une première fois à Neuchâtel. Il y prêche à certains carrefours, dans certaines familles aussi, qui sont déjà acquise à la cause, mais c'est un premier échec. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cet échec de 1529 révèle que derrière l'arrivée de Farel, il y a tout un réseau qui s'est constitué, un réseau d'envoyés bernois, et en particulier un certain Wildermuth, qui est à ce moment-là à Neuchâtel et qui prépare, si vous voulez, le terrain pour Farel. Ce qui fait que Farel n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une place en prêchant devant deux ou trois vendeurs de sardines, mais qu'au contraire, eh bien, il y a des gens qui sont déjà prêts à l'entendre et il y a un réseau qui se constitue. Et ça montre bien que c'est un homme qui réfléchit et qui prépare son terrain. C'est d'autant plus frappant si l'on regarde les événements de 1530. Parce qu'en 1530, Farel renforce, si vous voulez, la pression pour que se convertisse la ville de Neuchâtel. Et là aussi, certains éléments du personnage ont été un peu tirés en épingle, si vous voulez, pour montrer son agressivité, en particulier les insultes qu'il adresse au clergé et en particulier au rituel de la messe. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que d'abord, ce sont des points théologiques fondamentaux qui oppose véritablement le monde de la réforme et l'univers que l'on qualifiera par la suite de catholique, on parle de l'ancienne foi à cette époque-là, et que ce sont des questions qui touchent au fond directement le public qui en entend parler, parce que la messe, tout le monde y participe. Donc si vous dites à quelqu'un qu'en communiant ou en participant à la messe, il risque de mettre en doute son salut, eh bien vous lui parlez directement de lui-même. Ce n'est pas une question anodine, c'est une question qui concerne. De même pour le clergé qui est accusé, bien sûr, de faire son beurre avec toutes les messes et toutes les cérémonies qu'il multiplie. Mais derrière ce premier aspect qui est tout de même réfléchi, et que Farel d'ailleurs développe en affichant à Neuchâtel dès 1530 des placards, vous connaissez la fameuse affaire des placards de 1534 qui vont mettre le feu à toute la France et qui seront cause de la fuite de Calvin hors du royaume, eh bien en 1530 déjà Farel fonctionne ainsi, c'est-à-dire qu'il fait diffuser et placarder partout à travers la ville de Neuchâtel des thèses extrêmement violentes contre le clergé, contre la messe. Mais au travers, si vous voulez, de ces insultes, ce que cherche aussi Farel, c'est à provoquer une discussion, une dispute. Et ça marche dans une certaine mesure, puisque les personnes qui sont accusées, en particulier les ecclésiastiques, vont porter plainte. Donc Farel va devoir s'expliquer sur ces accusations devant un tribunal, devant une audience de magistrats qu'il espère bien convaincre. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des procès, mais qui au contraire les recherche. Et c'est extrêmement intéressant de voir que dans les procès qui ont lieu à Neuchâtel, eh bien, il prêche, il ne se défend pas, il ne dit pas « oui, veuillez m'excuser, votre honneur ». Au contraire, il justifie ses positions. Et ce qui est frappant, c'est qu'il les justifie toujours avec des textes qui ont une connotation relativement eschatologique, pour ne pas dire apocalyptique. Il s'agit de dire que le salut de ses auditeurs se joue ici et maintenant. Il aimait à dire que la hache était posée près de l'arbre et que l'arbre allait être coupé. Donc c'est maintenant qu'il faut décider. Ce n'est pas demain matin, c'est maintenant. Et c'est vrai que cette façon-là de faire va avoir une certaine efficacité, puisque même si des facteurs politiques entrent aussi en ligne de compte, à l'automne 1530, eh bien, Neuchâtel passe à une courte majorité à la réforme lors d'un plus, c'est-à-dire d'un vote qui rassemble tous les bourgeois de la ville. La majorité est de 18 voix pour la réforme contre la messe sur, d'après les estimations de Louis-Édouard Roulet, un nombre de votants d'environ 500 à 600 personne. Donc vous voyez que c'est une très courte majorité qui fait que Neuchâtel devient à ce moment-là une ville de la réforme et va le rester jusqu'à ce que Genève elle-même passe à la réforme, puisque Farel sera aussi à l'origine de l'installation à Neuchâtel de l'imprimerie de Pierre de Vincle, qui va diffuser d'abord toute une série de traités contre la messe, contre l'église institutionnelle, mais qui sera aussi à l'origine de la première Bible réformée en français, dont vous avez un très bel exemplaire ici à l'entrée du musée. Voilà donc pour l'activité, si vous voulez, les méthodes de travail de cette personne, qui donne bien évidemment une image de lui extrêmement guerrière, extrêmement active, extrêmement féroce. Mais j'aimerais vous inviter maintenant, au travers de quelques textes de Farel, à plonger un peu plus dans la spiritualité de cette personnalité haute en couleur. Le premier texte, j'en ai retenu trois. Le premier texte dont j'aimerais vous parler succinctement, c'est le commentaire du Paternoster et du Credo, ou du Notre Père et du Credo, qui est un texte que Farel publie anonymement en 1524 et qui a été redécouvert en 1982 par Francis Higman à la bibliothèque de Vienne. Et c'est un texte qui, même si au fond il n'en existe plus qu'un exemplaire, va avoir un destin phénoménal puisqu'il va être réutilisé par toute une série de textes. Quel est le contexte ? Farel est à l'été 1524 à Montbéliard. où il a demandé l'autorisation de prêcher la réforme. Et là aussi, il a eu quelques démêlés avec les ecclésiastiques du lieu et il a perdu quelques autres dents. Mais surtout, ce à quoi Farel commence à être sensible à ce moment-là, c'est le fait que les communautés qui se forment progressivement manquent d'un mode de prière qui soit véritablement évangélique. Au fond, ces gens-là qui adhèrent progressivement à l'évangile, eh bien, ne savent pas véritablement ce qu'ils font quand ils prient le Notre Père ou bien quand ils récitent le Credo. Et Farel va donc publier un texte qui explique ce que signifie prier le Notre Père et ce que signifie aussi réciter le Credo. Et il préface cet ouvrage d'une préface que vous trouvez d'ailleurs en brouillon, donc à Neuchâtel, au dos d'une lettre. Donc si vous avez l'occasion d'aller visiter les fonds de la bibliothèque des pasteurs, peut-être qu'il serait intéressant de demander à la conservatrice de sortir cette lettre qui se trouve aux archives d'État, mais qui est la propriété de la bibliothèque des pasteurs, et de vous la montrer, parce que c'est véritablement le brouillon de Farel. C'est assez rare de conserver des brouillons de textes du XVIe siècle pour que ça soit relevé. Alors, quel est, au fond, que fait Farel dans ce texte? Alors, pour le Credo, il reprend une traduction déjà existante du commentaire qu'avait fait Luther dès 1521 et qu'il remet en français, il le connaît probablement du latin, et qu'il augmente de certains nombres de remarques. Mais pour ce qui est du Notre Père, c'est Farel qui parle dans ce texte. Et son souci, c'est véritablement, dit-il, d'offrir aux simples gens, pour employer son expression, des moyens sains de comprendre qui est Dieu pour eux. Et ce que souligne ce texte, qui est très marquant, c'est pour Farel le rapport personnel, intime, direct, qui unit le croyant à Dieu. Un Dieu qui est qualifié par Farel de bon, c'est son qualificatif principal. Dieu est toute bénignité, dit-il, hein, toute bonté. C'est un abîme de bonté, dit Farel. Et lorsque vous priez le Notre Père, dit-il à ses lecteurs, c'est ça que vous devez avoir en point de mire. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté. Et c'est assez frappant de voir cette insistance sur la bonté de Dieu, là où Calvin insistera beaucoup plus sur la majesté. Et il est vrai que l'on sent là une influence, c'est ce que note en tout cas Francis Higman, une influence luthérienne très forte. Mais ce que souligne aussi ce texte, c'est la totale dépendance de la vie du croyant par rapport à Dieu et le fait que celui-ci ne peut trouver comme aide que la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Mais ce qui est aussi très intéressant dans ce texte, c'est que ce n'est pas un commentaire. Hein, il ne s'adresse pas à son lecteur en disant « quand vous priez, pensez à » ou « quand vous priez, sachez que ». Mais c'est une prière qui s'adresse en elle-même à Dieu. Il dit « tu » dans ce texte. Et il explique au fond à son lecteur ce qu'il doit faire quand il prie, tout en s'adressant à Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que son vocabulaire est extrêmement fleuri. J'aurais presque envie de dire piétiste avant la lettre, puisqu'il parle toujours de la douceur de Dieu et de la douceur de Jésus. Et vous verrez que c'est un thème que nous retrouverons. Ce qui est frappant, c'est que la douceur du Christ, la douceur de Jésus, c'est la qualité principale de Jésus pour Rousseau aussi. Donc il y a une espèce de parenté comme ça à travers l'histoire qui se dessine là et qui n'est pas inintéressante à noter. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est l'actualisation de la prière du Notre Père dans la vie du croyant. Et j'aimerais vous en lire ici un texte, un extrait, qui est le commentaire tout simplement des mots « Notre Père ». Ô notre Père qui es aux cieux, non point seulement maintenant, mais à toujours, plein de jubilation et de liesse, auquel nous nous devons attendre et mettre toute notre fiance, auquel nous devons que nous sommes créés, auquel nous devons que de nos péchés nous sommes rachetés et délivrés, auquel nous devons tous les biens et vertus que nous avons, lequel nous appelons Père, afin que nous sachions que tu es doux et bénin envers nous. lequel nous disons être cieux, afin qu'en contemnant ces biens terriens et transitoires, nous puissions là su élever nos cœurs, et penser que par ton bénéfice seul pouvons être faits purs et entiers, lequel nous appelons et disons nôtre, et point seulement mien, afin que nous entendions que nous ne devons rien avoir de propre pour ce que de la bénéficence et libéralité de toi seul advient à tous, tout ce qu'ils ont. Veuille donc, ô notre très bénin Père, tourner les yeux de ta très grande miséricorde vers nous, tes pauvres enfants, qui sommes ici en terre, pleins de soucis terriens, pleins de tristesse, pleins de peines et tribulations, mêmement toujours remplis de péchés, remplis de mécréances et sans fiance en toi. Pourtant, nous te prions que tu veuilles aider notre incrédulité, c'est une référence à l'Évangile, et renforcer notre faible fiance, et que tu nous veuilles bénignement pardonner tout ce que nous avons méfait contre ta divine puissance, par notre mécréance, et tout ce que nous avons méfait contre ta sainte bénignité, par notre faible confiance, afin que nous, qui selon le nom de ton cher Fils Jésus-Christ sommes appelés chrétiens, ne portons point ce nom en vain, mais que sanctifié soit ton nom en nous par vraie foi, certaine espérance et parfait amour en toi et envers notre prochain. Car gloire n'appartient point à nous, vu que tout ce que par nous est bien et louablement fait est l'œuvre de ta grâce, laquelle tu nous donnes avec ton Saint-Esprit, lequel nous recevons par foi. Je confesse toutefois, ô mon très cher et très miséricordieux Père, que j'ai si souvent de fois déshonoré ton saint nom par faute de foi et fiance en toi, laquelle j'ai montré en murmurant contre toi et non point pourtant en patience tout ce que tu m'as envoyé, nonobstant que tu fais toutes choses aussi bien qu'il est possible de les faire, tellement que le désespoir de toi et de ta sainte bonté me montre plutôt être le fils de ton ennemi le diable d'enfer et su mieux digne d'être appelé fils de damnation éternelle que ton fils ou chrétien. Mais très cher Père, je ne me veux point pourtant défier de toi, mais plutôt de plus ardent courage, me défiant du tout de moi et m'attendant du tout à toi, crie par une ferme confiance en toi, ô notre Père, aie pitié de tes désobéissances et criminels enfants, et considère leur fragilité par laquelle ils ne savent gouverner. Vous voyez qu'on parle toujours du style de Calvin, mais je trouve que le style de Farel, lorsqu'il est lu, c'est un style oral, je crois, a une certaine portée, et là on est dans un texte qui est édité véritablement, qui n'est pas, selon les critères anciens, qui n'est pas du tout modernisé. Le deuxième texte auquel j'aimerais m'arrêter avec vous, c'est le fameux sommaire et brève déclaration d'aucun lieu très utile de 1529-1534. Le contexte, c'est celui de l'activité de Farel en Suisse romande. On est dans les années où il tente de convertir la Suisse romande. Et il s'aperçoit, là aussi, raison pratique, que les communautés qui commencent à se former manquent véritablement d'une doctrine et aussi d'ailleurs d'une liturgie. Et c'est pourquoi, dans ces années-là, eh bien, il travaille à une liturgie qui est en fait, semble-t-il, une traduction d'un texte bernois qui deviendra la fameuse Manière et façon, la première liturgie réformée de langue française, mais qu'il travaille aussi à ce fameux sommaire qui est, en quelque sorte, la première dogmatique protestante de langue française. Alors, je dis dogmatique, ça n'est bien sûr pas l'institution de la religion chrétienne. C'est un texte de combat, c'est un texte qui doit permettre aux communautés, aux futurs pasteurs, de justifier les raisons de leur adhésion à la réforme. Et c'est un texte qui fonctionne principalement par dichotomie, par opposition. Dieu et l'homme, la loi, l'évangile, le péché, la justice, le vrai culte, la messe, le vrai pasteur, les ecclésiastiques, etc., etc. Et c'est extrêmement frappant, et ça vous montre, bien sûr, ce caractère extrêmement, disons, engagé et pratique de la démarche de Farel. Pourtant, c'est un texte qui, lui aussi, renferme quelques perles qui indiquent des éléments sur ce que peut être la spiritualité, la théologie de Farel. Je vous ai dit, c'est un texte qui fonctionne par dichotomie, par opposition, et l'une des premières d'entre elles, c'est l'opposition entre Dieu et l'homme. Mais entre Dieu et l'homme, eh bien, il fait une exception. Et il consacre un chapitre, vous l'aurez deviné, au Christ, auquel il accorde une place éminente, tant, je dirais, dans sa théologie que dans sa spiritualité. Il le décrit dans ce chapitre comme le bras puissance, parole et sapience du Père, mais aussi comme la source unique du salut des hommes. Et j'aimerais vous lire ce chapitre qui est très court. C'est le chapitre 3 de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai fils de Dieu, le bras, puissance, parole et sapience du Père, auquel, comme homme, Dieu a élu son Saint-Temple, son habitation, son tabernacle, le Saint des Saints, le propriatoire où sont tous les trésors de sapience et sagesse, et où toute la divinité habite. Non pas comme en l'ombre et figure, mais comme au corps et vérité, auquel est consommée et parfaitement accomplie toute l'œuvre de Dieu. Car par lui sont restaurées et parfaites toutes choses, tant au ciel qu'en la terre. Pourtant, que pleine vie, pleine puissance, vertu, sagesse, grâce et justice sont en lui. Lequel fait obéissance au Père, né de mère, voire vierge sans semence d'homme, fait sujet à la loi, n'a point demandé sa gloire, ni sa volonté, mais celle du Père, ni parlant, ne faisant rien de soi-même, mais tout par son Père, lequel était en lui, réconciliant le monde à soi-même. Tant se est humilié et abaissé qu'il est mort pour nous, lui, juste et innocent pour les injustes et iniques, offrant son corps et son sang pour la purification de nos âmes, lesquelles, par cette mort et sacrifice, et par ce beau don de son Fils, le Père veut qu'elles soient certaines de leur salut et vie, et que pleinement elles sont purgées et lavées de leurs iniquités. Et que le Père, pour l'amour de soi-même, et non pas pour l'amour de nous, ni de nos œuvres, mérite et justice qui ne sont qu'abomination, il nous sauve, il nous vivifie, nous prenant pour ses fils et héritiers, héritiers avec Jésus-Christ, duquel sont faits membres tous ceux qui ont vraie foi en lui, et pourtant unis et incorporés au corps de Jésus. Par la vertu divine qui habite au chef, toute puissance contraire est détruite. Par la vie parfaite et immortelle, notre mort abolie. Par la sainteté, justice, pureté et innocence infinie qui est en lui, toute notre mauvaisité, iniquité et ordure est abîmée. Et par cette grande puissance, nous sommes réparés en plus noble état que jamais ne fûmes avant le péché d'Adam au paradis, non point qui était rien mais célestiel, à une vie non pas corporelle, corruptible et qu'on peut perdre, mais spirituelle, sans corruption et qu'on ne perdra jamais. Qui connaît et entend ceci par vraie et vive foi, il a véritablement la vie éternelle. Et plus ne se arrête aux créatures ni aux choses vaines, ayant connaissance du Père par le Fils, auquel il connaît et entend la grande bonté de Dieu et son infinie miséricorde. Vous voyez là qu'on est dans un texte qui se veut théologique, mais où il y a des résonances d'une certaine prière qui se fait jour. Et pour parler justement de prière, il y a un texte qui se trouve à la fin du sommaire, dans l'édition de 1534, et qui m'a toujours frappé, qui est très vraisemblablement de la plume de Farel, encore qu'il faille toujours se méfier de ces petits textes qui sont ajoutés, hein, c'est des éditions anciennes, et qui souligne, et c'est pour ça que je l'attribuerai à Farel, un aspect important de sa christologie que j'ai déjà mentionné, c'est la douceur du Christ. Et j'aimerais vous lire ce texte, et vous verrez en l'écoutant, ceux qui connaissent un peu les prières catholiques, pourquoi je vous le lis. Salut et oraison à Jésus-Christ, notre seul médiateur, vie, douceur et espérance. Je te salue, Jésus-Christ, roi de miséricorde. Je te salue, notre vie, notre douceur et notre espérance. Nous qui sommes les fils d'Ève, bannis, crions à toi. Nous soupirons à toi, gémissant et pleurant en cette vallée de misère. Avant donc, notre médiateur, convertis tes yeux miséricordieux vers nous. Ô Benoît Jésus, montre-nous la face de ton Père après cet exil. Ô clément, ô pieux, ô doux Jésus-Christ. En toute notre tribulation et angoisse, secours-nous, Jésus-Christ, notre salut et notre gloire. Vous aurez reconnu l'Ave Maria, que Farel, probablement, hein, je reste tout de même prudent, converti ici christologiquement, réinvesti au fond par la figure du Christ, et très probablement qu'il y a là un choix qui est bien sûr évident, et qui, je crois, est marquant aussi parce que la douceur du Christ, une fois encore, est l'élément central qui prime ici. Le dernier texte dont j'aimerais vous donner quelques éléments, eh bien, au fond, je devrais ici céder la parole à quelqu'un qui est dans l'Assemblée, c'est Olivier Labarthe, puisqu'il l'a édité récemment aux éditions Drault, c'est l'oraison, très dévote de 1542. Alors, je le prie de me corriger si je dis des bêtises, mais j'ai lu son introduction, donc en principe, je ne devrais pas en dire. Le contexte, c'est la prédication de Farel à Metz en 1542, une prédication qui remporte un succès très important, mais qui se heurte au fond à l'opposition des autorités qui ne veulent pas que cette prédication puisse s'installer. Et cette prédication de Farel à Metz a un succès tel que l'on dénombre vraisemblablement 400 à 600 personnes le 2 octobre 1542, au moment où Farel essaye de prêcher dans Metz, ce qui lui est interdit et ce qui lui impose, ainsi qu'à ces 500 à 600 personnes, de se rendre, par un temps difficile, à l'extérieur de la ville pour entendre cette prédication. Malgré ce succès, eh bien, les autorités de la ville et même les autorités impériales, puisque Metz dépend de l'Empire à ce moment-là, vont faire en sorte que cette prédication soit stoppée et que cette communauté qui se crée ne puisse pas entendre la prédication. Et c'est donc un temps d'épreuve, bien sûr, pour cette communauté et un temps d'épreuve que Farel relaie, si vous voulez, dans un texte, cette fameuse oraison très dévote de 1542, qui est très intéressante parce qu'elle aussi, eh bien, c'est une forme de prière adressée à Dieu. Ce n'est pas un appel direct, si vous voulez, à la population protestante, entre guillemets, messine, qu'il s'agirait d'encourager, mais c'est une prière adressée à Dieu. Et c'est celle de ceux qui, bien sûr, supplient Dieu après cette parole qu'ils ne peuvent pas entendre. De ce point de vue-là, c'est un texte extrêmement intéressant, qui n'est pas dépourvu de révolte à certains moments, parce que, eh bien, ces fidèles sont privés de quelque chose qui est important, qui est central pour eux. Mais c'est aussi un texte qui témoigne d'une très forte espérance de la part de son auteur, et qui, même s'il est parfois critique, presque exigeant à l'égard de Dieu, n'en reste pas moins marqué par cette miséricorde divine, cette bénignité, encore une fois, dont il est sûr qu'il verra les fruits. Et ce qui est intéressant, c'est que Farel insère à la fin de ce texte une traduction du psaume 120 qui est due à Jean Ménard et qui est, à laquelle est jointe le chant qu'on peut en faire. Et il s'agit donc aussi par ce psaume, peut-être chanté, d'encourager vraisemblablement cette communauté messine qui attend que quelque chose se passe. Jean Ménard a été pasteur à Yverdon et j'aimerais vous lire cette traduction qui n'est pas de Farel, mais qui a été sans doute placé là par Farel et qui, une fois encore, je trouve, témoigne bien de son orientation. Alors, je ne vous la lis pas dans le volume original que j'ai la chance d'avoir. Je suis désolé, je suis venu avec des photocopies. J'espère que tu ne me dénonceras pas, mais depuis Paris, ça faisait un peu lourd. Ô Seigneur Dieu, pour recouvrer l'IS et délivrer mon cœur de sa tristesse, j'ai haut crié en mon deuil et ennui, et mon Dieu m'a ouï. Mon Seigneur Dieu, délivre donc mon âme d'inique bec et de la langue infâme, qui par leur dôle, mensonge et fausseté, cause mal heurté. Que fera-t-on contre langue mauvaise, qui trouble ceux qui se rouettent à leur aise, et qui au lieu de paix et union sème dissension, garrot agu décoché en puissance contre homme nu envoyé par outrance, et les charbons ardents de genévriers ne font-elles encombrier. Hélas, hélas, trop longue est ma demeure, avec tels gens en cédar en toute heure. Je demandais à vivre en bonne paix, mais j'ai ce pesant fait. Quand je leur fais de la paix ouverture, non seulement ils n'ont dissé le cure, mais contre nous, guerrois, et à toute main, tant ils sont inhumains. À toi, mon Dieu, soit tout honneur et gloire, fais-moi ce bien toujours d'avoir mémoire de tes bienfaits, tant en adversité comme en prospérité. Pardonne, Seigneur, à ton peuple, exauce, ô Seigneur, le cri de ton peuple. Donc, je le répète, ce texte n'est pas de Farel, mais le fait qu'il le place à la fin de son texte souligne à la fois, je dirais, un souci pastoral, mais aussi la volonté, si vous voulez, d'illustrer par le texte biblique d'abord ce qui est en train de se passer. J'en arrive à la fin de ce parcours. J'espère vous avoir montré que derrière le Farrell bourlingueur, derrière le Farrell Lucky Luke, eh bien, se cache aussi une figure plus nuancée, plus subtile dans sa spiritualité et dans sa théologie. Il y a une question que vous ne manquerez pas de me poser et à laquelle j'aimerais répondre, c'est au fond, pourquoi ce mythe s'est-il construit autour du Farrell prédicateur parfois violent et agressif? Eh bien, je vous dirais que la question se trouve une fois de plus dans ce coin-là de la scène. La question qui, à mon sens, fait que l'on a commencé à qualifier Farrell comme ce prédicateur tonitruant, c'est au fond quelle place lui donner à côté de Calvin, qui occupe toute la scène, bien sûr. Et l'un des responsables, cette fois je me tourne vers Alain Dufour, c'est probablement Théodore de Bèze. Dans ses Poemata Varia, la deuxième édition de 1569, il est en dessous du pseudo Farrell, hein, c'est pour ça que je vous dis que ça se passe par là, et vous verrez que les deux autres, Viret et Calvin, sont aussi mêlés à cette affaire. Puisque dans ses Poemata Varia de 1569, nouvelle édition, Bèze introduit des vers latins pour, disons, honorer la mémoire de deux défunts, Calvin et Farrell, qui s'en sont allés en 1564 et 1565, et d'un vivant qui l'est encore à ce moment-là, qui est Pierre Viret. Et il écrit ceci, je vous le lis en latin, en essayant de respecter la versification latine, mais je n'ai jamais été fort en scansion, donc je vous prie de m'excuser. Je vous lis en tout cas ce qui concerne Calvin et Farrell, et puis je vous en donnerai une traduction. Gallica mirata est Calvinum ecclesia nuper, quonemo docuit doctius. Est quoque tenuper mirata Farrellem tonantem, quonemo tonuit fortius. Hein, la Gaule admira naguère Calvin, enfin l'église française, l'église de Gaulle, admira naguère Calvin, car personne n'enseignait plus doctement que lui, docuit doctius. Et toi aussi, elle t'admira, Farrell, tonnant, parce que personne ne tonnait plus fort. Et c'est là probablement que prend naissance l'origine de ce mythe. Je précise qu'à propos de Viret, Bèze dit « fatur dulcius », personne ne parle au présent plus doucement au sens de doux, bien sûr. Donc vous avez, à travers ces quelques vers, résumé ce triptyque qui, à mon sens, a d'une certaine façon participé à créer des mythes autour de ces personnalités, à Calvin la science, le savoir, hein, doctius, à Viret la douceur et à Farrell la force, la violence, le torrent, si vous voulez, hein, l'éclair au fond de sa parole, le tonnerre. Et j'espère qu'avec ce bref exposé, je suis arrivé un tout petit peu à nuancer ce grand mythe qui trouve néanmoins sa source dans une très belle page poétique de Théodore de Bèze. Merci de votre attention.